On va parler d'adhésion aux mesures sanitaires. Vous le savez, il y a des critiques présentement. Il y a beaucoup de ras-le-bol aussi. Je sais que tout le monde est tanné. Et on va parler de, disons, appelons ça la psychologie du déconfinement, la psychologie de l'espoir. Parce que adhérer aux mesures sanitaires, que les gens soient d'accord, c'est très important pour se sortir de cette crise-là. On va en parler avec Roxane de la Sablonnière. Elle est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Attention, elle n'est pas psychologue et elle mène depuis le début de la pandémie une étude sur l'adhésion aux mesures sanitaires. Professeure de la Sablonnière, bonsoir.
Oui, bonsoir, ça va bien?
Oui, bien, l'erreur doit se faire souvent. On doit présumer que vous êtes psychologue, c'est ça?
Oui, souvent, mais j'ai un doctorat en psychologie, mais en recherche. Je suis vraiment une chercheure, là.
OK. Donc, vous ne faites pas de cabinet, vous faites la recherche en psychologie.
Non, okay. J'ai pas la formation clinique, puis je fais pas partie de l'ordre des psychologues aussi, mais je forme des étudiants en psychologie en recherche, par exemple.
Parfait. Pour la chercheuse en psychologie, là, vous devez être tannée personnellement, mais pour la professionnelle que vous êtes, ça doit être un terrain très fertile, la pandémie, là.
Certainement. Ben moi, en fait, je dirige le laboratoire sur les changements sociaux et l'identité depuis plus de 15 ans. Donc, pour moi, c'est juste la pandémie, c'est la continuation de ce que j'ai toujours fait parce que, ben en fait, avant la pandémie, j'allais au Kyrgyzstan, en Asie centrale, en Mongolie, en Afrique du Sud, en Russie. Donc, partout où il y avait des grands bouleversements, par exemple, comme le démantèlement de l'URSS. Mais là, depuis un an, on vit une pandémie partout à l'échelle mondiale. Donc oui, je suis plongée dedans, dans les données depuis la dernière année. Puis cette recherche que nous menons, par exemple, sur l'adhésion aux mesures sanitaires, ben c'est la continuation un peu de ce qu'on a toujours fait, là, mon équipe et moi.
OK. À quoi vous compareriez là, l'état d'esprit des Québécois après un an de pandémie à d'autres, disons, événements bouleversants que vous avez étudiés dans le monde?
Bien, en fait, c'est vraiment un parallèle qu'on peut faire. C'est identique d'une certaine façon. C'est sûr que tous les contextes sont différents. Par exemple, si on pense à la Syrie en ce moment, ils sont aussi en contexte de pandémie, donc ça s'ajoute à des grands bouleversements qu'ils ont eus les dernières années. Fait que c'est sûr qu'il y a des situations un peu moins comparables. Par contre, lorsqu'on veut définir un grand changement social, par exemple, il y a quatre caractéristiques importantes. Donc, la rapidité, ça arrive du jour au lendemain. Donc, on peut comprendre que s'il y a un parallèle similaire, par exemple, avec le démantèlement de l'URSS, il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas vu ça venir, ou une guerre, ou un ouragan ou, qui détruit tout. La deuxième caractéristique, c'est les infrastructures, les gouvernements, donc le monde du travail qui change du jour au lendemain, les hôpitaux sont en bouleversement, les écoles aussi, leur fonctionnement est totalement différent. Donc, on voit ça aussi dans le contexte de la pandémie. La troisième chose qu'on peut observer, ce sont nos comportements de tout le monde. Là. Est-ce qu'on porte un masque en public? Est-ce qu'on se lave les mains à chaque 30 secondes? J'exagère un peu, là. Mais est-ce qu'on fait du télétravail? Moi, j'ai presque pas mis les pieds à l'université depuis la dernière année. Donc, tous nos comportements quotidiens ont été modifiés. Et puis, évidemment, ça amène un bouleversement là sur le plan identitaire. On se pose des questions. Mais nous sommes qui maintenant? Si c'est pour quelqu'un, par exemple, sa famille, c'est très important, puis il peut pas vraiment aller la voir, ben il peut se poser des questions. On parle beaucoup des jeunes en ce moment qui sont en période de construction identitaire, puis ils peuvent pas nécessairement socialiser. Alors, ça amène beaucoup de questionnements. Puis, en ce sens, ce qu'on vit aujourd'hui, donc c'est très similaire à ce que d'autres pays ont vécu auparavant ou d'autres groupes. Hein? Parce qu'ici aussi, au Canada, il y en a eu des grands changements sociaux dramatiques si on pense, par exemple, aux peuples autochtones qui ont subi la colonisation. Oui. Non, on s'entend.
Dites-moi, est-ce que après un an de pandémie, c'est normal que les gens adhèrent moins aux règles, aux ordres de distanciation sociale, aux mesures sanitaires? Ou est-ce que c'est le résultat, disons, d'une mauvaise communication?
Bien, en ce moment, bon, on dit beaucoup que les gens adhèrent moins. Nous, d'autres données, ce qu'elles montrent, c'est que les gens, tout au long de la pandémie, adhèrent quand même assez bien et fortement. Donc, les gens, de manière générale, ils respectent les règles. Est-ce qu'ils les respectent tout le temps, constamment, toutes les règles? Peut-être pas. Mais de manière générale, la vaste majorité des gens, puis on pourrait dire une majorité qui est plus silencieuse aussi, respecte les règles. Donc, par contre, depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de ceux qui ne respectent pas les règles. Et ça envoie un message qui est négatif peut-être, puis qui n'est pas nécessairement juste. Et c'est sûr que ça peut créer des problématiques aussi. Parce que, en fait, on est tous influencés par les autres. Hein? Vous savez, on se dit indépendant comme être humain.
Mais on est en même temps, on est des bébites sociales.
Exactement. On est des bébites sociales, c'est très bien dit. Puis on est vraiment influencé par les autres. Donc, si moi, par exemple, j'ai l'impression que tous les Québécois respectent les règles, ben je vais finir par les respecter moi aussi. Donc, un processus qui s'engage et puis je vais adhérer aux mesures sanitaires. Donc, ces normes sociales-là sont extrêmement importantes. Puis le fait de penser que la majorité le fait ou le pense, ben ça va vraiment influencer les individus. Et puis le fait qu'on perçoive des règles comme étant claires et cohérentes dans notre entourage, des règles émises par les gouvernements, ben ça va enclencher un processus de normes sociales où je vais percevoir que la majorité des Québécois, par exemple, adhèrent ou pensent que ces règles-là sont importantes, puis finalement, moi, je vais y adhérer. Ce message-là est encore plus important que de parler des gens qui sont plus récalcitrants, qui, somme toute, se trouvent en minorité.
OK, donc, mais trouvez-vous que le gouvernement envoie des messages cohérents?
Pas tout le temps, non.
Qu'est-ce qui est incohérent pour vous dans les messages récents?
Ben, je vais vous donner un exemple. Ben, en fait, c'est tout est dans la perception. Donc, même un message incohérent pourrait devenir cohérent. Donc, tout est vraiment dans la perception des gens. Par exemple, à Noël, on a dit qu'on pouvait se rassembler, puis finalement, on ne peut pas se rassembler. Donc, ça peut être perçu par la population comme étant très incohérent. Mais en même temps, le gouvernement nous avait dit que si ça remontait les cas, il irait vers ça. Donc, la cohérence ou l'incohérence, c'est une question de perception. Plus récemment, donc on dit aux gens qu'à part qu'on doit faire très attention. OK. On nous dit de ne pas nous rassembler dans les maisons. OK. Mais on nous dit aussi qu'on peut se rassembler dans les lieux cultes. Donc,
à 250 personnes.
Exactement. Donc,
c'est un exemple d'incohérence, professeur de la Sablonnière.
Bien, en fait, c'est un exemple d'incohérence si ce n'est pas expliqué. Mais moi, je n'ai pas entendu d'explication aujourd'hui.
Mais écoutez,
là,
le PM aujourd'hui, quand il s'est fait poser des questions là-dessus, là, il a dit, bien, écoutez, nous, ce qui nous inquiète vraiment, c'est les rassemblements dans les maisons.
Oui, mais pourquoi? On doit comprendre pourquoi. Et si on comprend pourquoi, bien là, les gens, ça va peut-être changer leur perception. Peut-être qu'ils vont percevoir ça comme étant plus cohérent. C'est comme on nous dit, même à cette même conférence de presse-là, puis ça n'a aucun rapport avec les mesures sanitaires, donnez du sang. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a plus de gens qui meurent? Est-ce qu'il y a plus de besoins au niveau du sang, etc.? Donc, de ne pas se contenter d'une liste d'épiceries, par exemple, mais aussi de l'explication de pourquoi on a besoin de ça. Donc, puis souvent, c'est peut-être d'ajouter une ou deux phrases, d'en dire peut-être moins, mais d'aller en profondeur un peu plus. Puis peut-être que ces sentiments-là ou ces perceptions d'incohérence-là ou de manque de clarté vont diminuer.
C'est vraiment intéressant. Puis écoutez, je sais que vous êtes en pleine collecte de données, là, mais faites-nous signe quand vous aurez les résultats. Je suis vraiment curieux de le savoir. Mais là, je dois vous arrêter. Bien, merci de nous avoir parlé de cohérence dans le discours.
Bien, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Réciproque, merci. C'était Roxane de la Sablonnière, qui est professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal.